Bonjour, bienvenue du côté de chez Jules. C'est une émission qui vous est proposée par les élèves du lycée Michelet. Aujourd'hui, autour de la table, sont rassemblés des élèves de seconde de Michelet. Je vous rappelle qu'ils ont carte blanche pour choisir le thème dont ils vont vous entretenir. Et aussi, la discussion entre eux est totalement libre. Autour de la table, il y a...
Brian.
Océane.
Ambre.
Chloé.
Solène.
Laura.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Chloé, je crois que c'est vous qui nous présentez un peu le thème que vous avez retenu aujourd'hui.
Notre thème qu'on a choisi, ce serait pour vous parler d'une demi-journée qu'on a organisée, qui a consisté à sensibiliser les élèves de notre lycée sur les différences entre hommes et femmes qui peut exister en France encore aujourd'hui. Donc, pour
différence, vous voulez dire inégalité, je pense.
Inégalité, disparité, différence, un peu de tout. On a organisé pour cela des activités différentes, plus ou moins ludiques, avec des présentations, et dans le but d'apprendre des choses et sensibiliser nos camarades.
Alors, quels étaient les thèmes qui ont été retenus ?
Alors, la violence faite aux femmes, psychologique ou morale.
Physique aussi, j'imagine.
Physique, oui. Bien sûr, excusez-moi.
Les inégalités, je crois, dans le monde...
Du travail.
Dans le monde du travail.
Les préjugés sur l'orientation.
Oui.
L'accès à la contraception.
Et les inégalités qui existent dans ce domaine.
Oui.
Donc voilà trois thèmes que nous allons, sur lesquels nous allons débattre aujourd'hui. Brian, sur les violences faites aux femmes.
Il existe plusieurs violences faites aux femmes. Des violences physiques, morales et psychologiques. Dans le monde et même en France, ce sujet reste tabou. Mais c'est très important, car la France, qui est un pays de démocratie, de droits de l'homme, où les gens ont la liberté de penser et d'action, des femmes se font encore battre, insulter et rabaisser, comme si elles étaient des objets. Et j'ai vu dans un documentaire qui s'appelle « La domination masculine » de Patrick Jean, qui était sorti en 2009, dans un salon de l'électroménager dans les années 60, un homme a dit, et c'est quelque chose qui m'a très surpris, que le seul outil est la femme, acheter une femme. Mais c'est insensé. Je veux dire que une femme n'est pas un objet qu'on achète, on utilise, et quand elle est usée, on la jette. Une femme, c'est un être humain. Et un autre exemple, une femme violée, elle va porter plainte à la police. Et la première chose qu'on lui demande, comment vous étiez habillée le jour du viol. Mais donc ça sous-entend qu'elle a bien cherché la façon avec laquelle elle s'est habillée. C'est pour ça qu'elle est violée.
Bien, sur le même thème, Océane, vous êtes intéressée aux violences psychologiques.
C'est ça. En France, on minimalise beaucoup les violences verbales faites aux femmes, mais c'est un sujet tout de même présent. Cette violence verbale, elle est basée sur beaucoup de stéréotypes et des préjugés. La femme dans la société d'aujourd'hui, elle est jugée beaucoup sur son apparence, alors que normalement, chacun est libre de se vêtir comme il le veut. Il y a des préjugés beaucoup présents dès le plus jeune âge dans des albums, des BD. La femme est vue comme une bonne ménagère au final, alors que le respect est le même. C'est un peu comme si on se retrouvait avant 470 avant Jésus-Christ à Athènes, où la citoyenneté n'était pas donnée à la femme. Donc le respect n'est plus là, alors que dans la société d'aujourd'hui, on est tous égaux.
Bien. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques, des observations, des commentaires à faire, les uns ou les autres? Vous êtes d'accord avec ce que Brian et ce que Océane viennent de vous dire, ou pas?
Oui.
Oui,
c'est vrai que c'est quand même très désolant de savoir qu'en France, il reste encore des inégalités, qu'il y ait des violences faites aux femmes comme ça, sachant que on est dans un pays libre où tout le monde est censé être égaux et au même piédestal. Donc, j'espère que ça va s'arranger.
Est-ce qu'avant cette journée de sensibilisation, vous étiez au courant du nombre de violences qui pouvaient être faites aux femmes, ou est-ce que ça vous a surpris?
Moi, ça m'a vraiment surpris, parce que je viens d'Afrique, et ça fait 4 ans que je suis en France, ben dans mon pays, il y avait des femmes qui se faisaient battre par leur mari. Et ben là-bas, c'était normal parce que c'était la religion. Ils disaient ça, que la femme est censée être soumise à l'homme. Et même à l'école, dans les livres qu'on nous donnait, c'était écrit des phrases sexistes, comme de genre comme papa va au travail et maman va au marché. Mais pourquoi pas maman va pas au travail, papa il va pas au marché, je veux dire. C'est inculquer des stéréotypes aux enfants et après c'est un impact dans les idées et la morale des enfants, je veux dire.
Est-ce que vous avez des choses à ajouter, d'autres remarques? Non. Alors, après les violences faites aux femmes, le second thème, c'était les inégalités dans le monde du travail. C'est Ambre qui nous en parle.
Alors, selon un rapport publié en 2014 par le Forum économique mondial, si la réduction se poursuit au rythme actuel, l'égalité homme-femme dans le travail serait prévue pour 2095. Actuellement, le salaire des femmes est inférieur de 20% aux hommes. 25% des femmes gagnent moins que les hommes. L'écart se réduit. En 1991, il était de 29%, alors qu'en 2009, il est passé à 25%. Mais dans le monde scientifique aussi, car pour la première fois, une mathématicienne iranienne a reçu la médaille Fields. C'est l'équivalent du prix Nobel en maths. Mais aussi, on le voit dans les classes d'ingénierie, où l'on manque cruellement de femmes, souvent parce qu'on pense que les métiers scientifiques sont plus adaptés aux hommes, alors que tout est bourré de stéréotypes qui ne devraient plus l'être parce qu'on est tous égaux, on a tous les mêmes capacités.
Bien, alors Chloé, vous êtes intéressée justement à savoir s'il y avait des métiers, s'il y avait des métiers qui étaient plus spécialement réservés aux femmes ou aux hommes, du moins dans la compréhension générale.
Les métiers ont-ils un sexe? Pour moi, c'est une bonne question, parce que on remarque en faisant des sondages qu'il y a encore beaucoup de mœurs qui demeurent et de stéréotypes, de préjugés sur les métiers. Que selon les gens, pour vous donner des exemples concrets, les métiers comme maçon, plaquiste, garagiste sont des métiers d'hommes, alors que au final, pourquoi une femme ne pourrait pas accomplir les mêmes tâches qu'un homme? Et au final, on se rend compte que c'est dans la tête des gens, il y a beaucoup d'hommes et peu de femmes, mais plus ça va, plus les femmes exercent les métiers qu'elles veulent et il y a beaucoup plus de femmes qu'avant dans les métiers considérés comme masculins, ce qui est un progrès. Après, ça peut aller dans le même sens pour les hommes qui pourraient travailler dans l'esthétique, dans la mode. On se dit que pourquoi pas eux, même c'est pas un métier, des métiers réservés aux femmes. Chacun peut faire le métier qu'il veut. Et ce que je pense, c'est qu'il faut choisir son avenir au-delà des stéréotypes et pas en fonction de son sexe. Et il ne faut pas en aucun cas se restreindre, enfin modifier ses choix selon les préjugés des gens. Et il ne faut pas s'auto-censurer pour notre orientation.
Il faut donc garder un horizon le plus large possible de possibilités, à ne rien s'interdire et autres. Est-ce que vous avez des remarques, des observations à faire sur ce que viennent de dire vos deux? Oui, Brian.
Quand il a parlé du monde de la mode et de l'esthétique, qu'il y avait pas beaucoup d'hommes qui y vont, mais ça a commencé à changer parce que on voit plus en plus de couturiers qui sont des hommes. Et moi, je trouve que ça a changé. Oui. Et même dans le monde du sport, le football féminin, ça commence à devenir célèbre parce qu'il y a plus en plus de filles quand on voit la télé, il y a des championnats de football féminin, des championnats d'Europe et tout. Donc,
oui, Chloé.
Certes, le football féminin peut-être se démocratise plus dans les médias, mais je pense pas que ce soit un bon exemple parce que c'est vraiment un des sports, le football pour les femmes, qui est le moins démocratisé. On peut parler plutôt par exemple du basket et du handball qui là est bien féminisé, mais pour vous donner un ordre d'idée, le football, il y a environ 3% de femmes qui l'exercent et de ces 3%, il y a moins de la moitié qui sont professionnelles et donc c'est quand même très peu.
Oh.
Je suis d'accord, mais le football féminin, il faut préciser qu'il n'est pas diffusé sur les chaînes comme la 1 ou la 6, il est toujours diffusé sur la TNT ou des chaînes payantes, alors que le football pour les hommes, qui est jugé normal, est toujours diffusé sur la 1, sur des chaînes où tout le monde peut les voir et qui c'est un vendredi soir, c'est un samedi soir, sur des créneaux où tout le monde peut le voir.
Parce que le football féminin n'est pas rentable selon les gens, et c'est pour ça qu'il est beaucoup moins diffusé sur les médias.
Oui, mais peut-être que si on commençait à le diffuser sur les médias, les gens commenceraient à s'y intéresser et qu'il deviendrait rentable, si vous les voyez toujours.
Il y a toujours cette
objection-là. Qu'est-ce qui, à votre avis, justifie le fait, ou qu'est-ce qui explique, non pas justifie, qu'est-ce qui explique le fait que, encore actuellement, donc comme vous nous l'avez dit, le salaire des femmes soit inférieur de 20-25% à celui des hommes. Pour vous, qu'est-ce qui l'explique? Donc, j'ai compris que c'est pas justifié, mais qu'est-ce qui peut l'expliquer?
Par exemple, peut-être les moments où les femmes doivent s'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Ça aussi, je trouve pas ça très, très normal, parce qu'une femme comme un homme peut s'arrêter pour s'occuper de leurs enfants. C'est pas parce qu'une femme l'a porté pendant 9 mois qu'elle doit forcément s'arrêter. Mmh. Un homme aussi, puisqu'il a participé quand même à la création de cet enfant. Donc,
oui.
Ils ont tous les droits, ils ont tous les deux le droit de s'arrêter. Et...
Donc, vous pensez donc que lorsque un employeur, par exemple, va engager une femme pour travailler, il va tout de suite avoir en tête le fait qu'elle risque d'être plus souvent absente qu'un homme, hein, de fait que parce qu'elle peut avoir des enfants, etc.
Bien sûr.
Bon.
Moi, je pense que c'est tout à fait ça.
Vous pensez que c'est une des raisons essentielles. Est-ce que vous en voyez d'autres? Oui.
Il y a aussi le fait que depuis de nombreuses années, les femmes, enfin beaucoup moins maintenant, mais étaient considérées comme inférieures. Et pour reprendre un exemple dans le domaine du sport. Les femmes ont un salaire moindre par rapport aux hommes en tant que professionnelles, parce que à cause de leur physique, enfin ce sont des femmes, alors elles font pas des compétences aussi performantes, elles ont pas des compétences aussi performantes que les hommes. Mais après, est-ce que ça justifie un salaire bien plus bas? Enfin, après, on faut quand même accepter ces différences, mais faut pas non plus que ça devienne de grosses inégalités.
Mm-hmm. Brian?
On voit pas aussi beaucoup de femmes qui sont en PDG de firmes transnationaux comme les grandes entreprises et tout, parce que un PDG est censé diriger, être autoritaire, et depuis longtemps on a des idées.
Brian, tu dis ça, mais je pense que c'est un stéréotype que je parlais tout à l'heure, beaucoup ont de gens. Okay. Parce que c'est 50-50, les PDG des entreprises, il y a autant de femmes que d'hommes. Et ça s'est amélioré ces dernières années. Donc.
Bien, on va prendre le troisième thème maintenant, qui est donc celui de l'inégalité devant la contraception. Et c'est donc Solène qui nous en parle.
Alors, en effet, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'inégalités entre la contraception féminine et masculine. Par exemple, quand on parle de contraception, pour les hommes, on pense plutôt directement au préservatif, alors que pour les femmes, on pense directement à la pilule. Alors que, voilà, c'est pas que la copine d'à côté utilise la pilule, que nous aussi, on doit l'utiliser. Il y a plusieurs formes de contraception pour les femmes autant que pour les hommes. La contraception, c'est quelque chose plutôt de personnel. C'est notre choix à nous. C'est pas que, par exemple, notre mère prend la pilule que nous aussi, on doit la prendre. Enfin, voilà, c'est vraiment... En plus, il y a un libre d'accès. C'est vraiment, on peut le prendre où on veut. Par exemple, il y a l'accès à l'infirmerie, quelque chose qui est gratuit, on va dire à peu près discret, aux endroits publics et au planning familial aussi. Ils sont là pour ça, pour nous écouter, pour nous conseiller. Enfin, voilà.
Bien, Laura, vous avez, je crois, une expérience de sensibilisation qui a été réalisée donc au cours de cette fameuse journée du mercredi 26 novembre.
Et voilà, donc on a voulu faire passer un certain message, c'est qu'un préservatif, c'est facile d'accès, ce n'est pas très cher, donc il faut en profiter et se protéger. Tout le monde pense peut-être que la contraception, c'est quelque chose de tabou, qu'on a vraiment du mal à en parler, mais c'est normal d'en parler, et donc du coup, on a voulu sensibiliser les élèves. Et donc pour ça, nous avons créé 2 piñatas. Donc des piñatas, ce sont des objets en papier mâché que l'on garnit de ce que l'on veut. Donc ça peut être des jouets, des bonbons, ou vraiment enfin, ce que l'on veut. Et nous avons rempli de préservatifs avec comme but de montrer aux élèves du lycée que c'est facile d'accès, il faut s'informer et la contraception concerne autant les hommes que les femmes. Ce n'est pas qu'un travail d'homme, ce n'est pas qu'un travail femme. Les deux sont à 50-50 dans le sujet.
Vous écoutez Du côté de chez Jules, une émission qui vous est proposée par les lycéens du lycée Michelet. Aujourd'hui, ils sont rassemblés des élèves de seconde qui vous parlent des inégalités hommes-femmes. Donc, on vient de traiter du thème des inégalités dans la contraception. Est-ce que vous souhaitez, vous avez des remarques, vous souhaitez intervenir? Oui?
Personnellement, oui. Je trouve que c'est bien qu'il y ait cet accès, justement, très, très facile à la contraception, ce qui n'était pas le cas pour nos grands-parents. Alors maintenant, chacun peut choisir si pour se protéger, puis s'il veut des enfants. Et maintenant, le fait qu'on puisse s'en procurer facilement, il n'y a plus de tabou et ça facilite la discrétion. Et les jeunes sont bien plus à l'aise avec ce sujet qu'avant.
Oui. Est-ce que vous considérez comme bien informé sur la contraception?
Oui.
Oui, vous êtes en seconde, déjà, vous considérez comme bien informé. Tous autour de la table, oui.
Il y a beaucoup de campagnes qui sont faites.
Qui sont efficaces, vous trouvez?
Depuis la petite école, ils nous en parlent dans les classes pour justement bien nous informer.
Laurent?
Disons qu'on est bien informé parce que on a beaucoup de facilité à se procurer des préservatifs. On a un distributeur au lycée. On en a un qui. Oui. Puis comme il est un petit peu caché, c'est vrai, c'est discret. Donc, oui. On a aussi l'infirmière qui est là pour nous en parler. Et on a souvent des interventions par Madame Garrigue, qui est là pour qui est du planning familial, qui est venue nous en parler. Et du coup, je pense que ça nous a beaucoup sensibilisés.
Oui.
Moi, j'ai une question par rapport au planning familial. Qu'est-ce qu'on y trouve là-bas? Qu'est-ce qu'on y fait?
Mais en fait, par exemple, on rentre, et par contre, il faut prendre un rendez-vous. Après, par exemple, si tu veux pas trop en parler à tes parents, si tu te sens mal à l'aise avec eux, tu peux en parler avec des professionnels, une conseillère ou des trucs comme ça. Et après, tu en parles. Par exemple, si t'oses pas demander à tes parents, tu veux avorter ou des trucs comme ça, vraiment, ils sont là vraiment que pour t'écouter à toi. C'est pas genre, ils vont dire, fais ça parce que tout le monde fait ça. C'est vraiment ton cas personnel.
Oui.
Après, je tiens à dire que le planning familial, c'est une association, mais c'est pas que non plus pour la contraception. On peut aussi y aller pour discuter avec des personnes qui vont nous soutenir. Si on a des problèmes dans notre famille avec nos parents, il y a des cellules qui sont mises en place de soutien et pour nous aider à nous épanouir dans notre vie d'adolescent.
Est-ce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous êtes de ce côté-là, tout de même génération relativement favorisée. Parce que je parle pour ce que je connais, donc de moi-même, si vous voulez. Non seulement on ne parlait absolument pas de contraception, ne parlons pas à l'école, ne parlons pas au collège ni au lycée, si vous voulez, mais même pas en famille, si vous voulez. On avait tout de même des relations sexuelles à notre âge, d'un certain âge, mais il y avait beaucoup d'accidents aussi, il y avait beaucoup de bébés non désirés. Et comme à l'époque l'IVG n'existait pas, elle était cachée. Enfin, il fallait aller presque même quelquefois dans un autre pays pour la faire. Eh bien, il faut bien vous rendre compte qu'il y a eu beaucoup de bébés qui sont nés à ce moment-là et qui étaient des bébés qui n'étaient pas souhaités. Quoi. Donc, il faut que vous en soyez. Je crois que vous en soyez conscient. Mais c'est une avancée, si vous voulez, sociétale, qui me paraît, moi, essentielle. Et que vous puissiez en parler, si vous voulez, librement entre vous certainement, mais ensuite avec vos parents, avec vos professeurs, avec tout le monde, je pense que c'est important.
Oui, c'est pour ça que comme on compare notre époque avec la vôtre, par exemple, en 1974, voilà, il y a une loi qui a été votée, par exemple, de Veil.
Voilà.
Alors que c'est pour ça que nous, maintenant, on peut en profiter, l'interruption volontaire de grossesse, c'est que vraiment, oui. C'est un droit personnel.
Et c'était une loi courageuse, parce qu'il faut bien que vous pensiez, à l'époque, s'il y avait des sondages, si vous voulez, la plupart des Français étaient contre. Mais il faut pas vivre selon les sondages, il faut certainement pas faire de politique selon les sondages. C'est ce que ça montre une fois de plus. Oui.
Après, à l'époque, il y avait aussi l'influence de la religion, où avec celle-ci, normalement, on ne devait pas prendre de contraception et encore moins arrêter une grossesse en cours.
C'est tout à fait exact.
Ce qui a un peu changé, parce qu'il y a beaucoup plus de laïcité et beaucoup moins de gens qui pratiquent qu'à l'époque.
Laurent ?
Justement, on parlait de la loi qui a été signée le 26 novembre. C'est pour ça que notre journée de sensibilisation a été faite le mercredi 26 novembre.
Oui. Très bien, pour fêter exactement la date exacte, les 40 ans de cette loi Veil. Oui. Est-ce que vous avez d'autres remarques sur tous ces thèmes de l'inégalité, donc homme-femme?
Est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent même dans le bon sens ou que, au contraire, c'est il y a toujours des tensions qui sont importantes, Chloé?
Oui, il y a toujours des tensions, ça c'est irrémédiable. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de progrès ces dernières années. Et ça, c'est une suite de, par exemple, de Madame Veil. C'est tous ces gens qui ont participé pour améliorer la situation. Et plus ça va, mieux ça va, si on peut dire.
Bon. Mais dans les métiers, par exemple, les métiers réservés aux hommes, les métiers réservés aux femmes, est-ce que vous avez l'impression que les mentalités évoluent aussi ou pas?
Oui, les mentalités évoluent, ça c'est sûr. Il y a beaucoup plus de gens qui choisissent vraiment ce qu'ils veulent plutôt que ce qu'ils devraient faire.
Mmh. Vous êtes d'accord avec Brian?
L'égalité homme-femme n'est pas encore un combat qui est gagné. Parce que il y a un mouvement qui veut revenir à une égalité en arrière. Et il y a des femmes qui sont, malgré elles, complices de ça aussi.
Quand vous dites que les femmes sont complices de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles se laissent faire?
Oui,
elles
se laissent faire.
Oui.
Et
Est-ce que vous pensez que c'est toujours très facile de réagir?
Ouais.
C'est pas forcément facile de réagir.
Je trouve que c'est pas bien parce que si on veut une égalité, il faut qu'il y ait une action. Il faut que les femmes se réveillent maintenant et il faut qu'elles savent qu'elles ont des droits et qu'elles doivent faire savoir ce droit.
Bon, vous savez qu'il y a eu des mouvements tout de même comme le mouvement de Libération de la Femme, le MLF et autres qui vont justement dans ce sens-là. Et je crois qu'il y a tout de même des avancées qui ont été fortes. Mais ce qui reste, là où vous avez raison, si vous voulez, dans les violences et autres qui sont faites aux femmes, c'est qu'il y a aussi un problème qui est important, c'est que il y a des femmes qui ne vont pas effectivement dénoncer ces violences, parce qu'elles ont peur de représailles au sein de la famille, dans l'environnement, etc. Hein. C'est aussi un problème qui existe. Alors, qu'est-ce que l'on peut ajouter? Est-ce qu'il y a une idée force que vous avez retirée de cette journée à laquelle vous avez participé? Quelque chose qui vraiment vous a marqué? Vous disiez, tiens, ça, j'imaginais absolument pas ça, etc. Et vous avez pris conscience d'un événement, de quelque chose qui vous a marqué? Oui, Chloé.
Pour ma part, ce qui m'a marqué le plus, c'est vraiment les inégalités salariales. Je m'y attendais pas du tout.
Vous attendez pas du tout?
Oui. Ça m'a profondément choqué.
Bon. Alors vous avez vu que si on ne fait rien, semble-t-il, si on continue au niveau actuel, c'est en 2095 qu'il y aura une inégalité. Mais les choses peuvent peut-être aller plus vite.
Ah ben j'espère, parce que ce serait bien que ça aille un petit peu plus
vite. Bon, il y a des changements dans la société. Hein. Moi je connais des choses qui étaient absolument inenvisageables il y a une vingtaine d'années. Je connais maintenant des papas qui restent à la maison, si vous voulez, pour élever les enfants, alors que la femme travaille, parce que la femme a un job qui est plus excitant peut-être, qui est plus épanouissant que celui de son mari. Et donc son mari a décidé de rester à la maison pour élever justement les enfants. Ça existe, ce n'est pas encore très important, mais ça existe, si vous voulez. Ça montre tout de même qu'il y a des évolutions qui se font dans les mentalités aussi. Oui.
J'ai appris quelque chose par rapport aux violences faites par les hommes sur les femmes. J'ai appris que 1 jour sur 5, une femme dans le monde meurt sous les coups de son mari.
Oui.
Et ça m'a choqué.
J'imagine. Oui.
Faut pas oublier non plus que les femmes font aussi des violences aux hommes. Il y a aussi des hommes battus. Et comme dans les couples homosexuels aussi, il y a toujours. C'est pas forcément un homme qui fait du mal à une femme. Ça peut être un homme qui fait du mal à un homme ou une femme qui fait du mal à un homme. Il ne faut pas oublier que la violence est dans les deux
sens. Mais elle est moindre tout de même dans le sens que vous évoquez que dans le sens homme vers les femmes. Oui, Chloé.
Pour en revenir à ce que vous disiez au niveau du congé paternité, je tenais à dire que ce que je ne trouve pas trop normal, c'est qu'il y a aussi des inégalités là-dessus. Après, que les femmes ont quand même le droit à plus de temps de congé maternité qu'un père, ce qui n'est pour moi pas normal parce que du coup, les deux pourraient prendre ce congé comme ils l'entendent pour leurs enfants.
Vous avez un député, parlez-lui en. Oui. Oui. Vous avez d'autres remarques, non? Tout va bien? Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je rappelle que c'est une émission qui vous est proposée par les élèves du lycée Michelet. 6 élèves de seconde étaient aujourd'hui rassemblés pour vous parler des inégalités hommes-femmes à l'issue d'une journée qui s'était tenue le 26 novembre de cette année. Au lycée Michelet, et le 26 novembre, c'était effectivement l'anniversaire, jour pour jour, des 40 ans de la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse. Merci à vous toutes et tous, vous êtes formidables.
Merci.
Merci.
Merci à toute l'équipe donc de seconde du lycée Michelet. Merci à vous, Jacques Griffaut. Juste, je prends l'antenne une toute petite seconde, d'abord pour féliciter ces élèves et leurs professeurs du travail qu'ils ont fait et qui a mené à la réalisation de cette émission. Deux petits points. Tout à l'heure, Brian, je pense, voulait dire que les avancées que l'on doit notamment à Simone Veil, que vous avez évoquées ici, elles sont fragiles et que effectivement, parfois des mouvements intégriste, religieux, qu'il a peut-être connu dans son pays d'origine, il voyait peut-être ça aujourd'hui, qui pouvait peut-être pointer le bout de son nez, donc il faut être attentif. Autre chose, mais là, c'est sur la contraception, mais plutôt, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, c'était la journée mondiale du sida, et qu'il y a des chiffres qui sont parus sur l'utilisation des préservatifs par les étudiants. Un étudiant sur trois, seulement, utilise le préservatif. Attention, donc. Merci. Et à la prochaine.